Le jardin des mots. Nous reprenons aujourd'hui nos bonnes vieilles habitudes dans notre jardin des mots et nous souhaitons le bonjour à l'honorable société qui, en radio, se nomme Les Auditeurs. Bonjour Lily.
Bonjour la société. Vous l'aurez compris aisément, notre mot du jour est société. Bonjour à toi, Marc Page.
Très bien, Lily. Quel genre de société allons-nous évoquer ensemble ?
Mais tu sais, le travail va être colossal, j'en ai le vertige. Car la société peut être primitive, secrète, anonyme, commerciale. Elle a aussi ses jeux de société, sa consommation et même sa vie mondaine que l'on appelle la haute société. Sur une marche moins élevée de l'échelle sociale, les clubs et autres associations sportives s'apparentent à des micro-sociétés. C'est d'ailleurs le nom qu'elles portent, pour ce qui est de la boule de fort, par exemple, en Anjou.
Fidèle à sa réputation, l'Américain Ambrose Bierce fait preuve de justesse avec sa définition. Société, système ingénieux pour obtenir des bénéfices individuels sans responsabilité individuelle.
Cette notion de responsabilité individuelle nous entraîne tout droit dans le sillage du naturaliste Jean-Jacques Rousseau. Nous savons tous que son credo est sans appel envers la société. Selon lui, la nature fait naître l'homme bon et la société le corrompt, autant chez les ch'tis que dans les champs d'oliviers. C'est également la façon de penser de Marcel Aimé dans son roman « Le Vaurien ». Il tourne en dérision les règles imposées par la société dans lesquelles il ne se reconnaît pas, pour favoriser son libre arbitre.
C'est vrai, il m'a fallu faire des concessions, mais je me console à la pensée que mes paroles ne servent à rien. Chez Bernard, ce qui est dans la vie, c'est d'être un inutile. J'ai toujours été révolté par cette idée de servir à quelque chose et d'être utilisé. Jeune homme, cela me paraissait déjà dégradant, et je m'étais juré d'être un propre à rien. Mais les vocations sont presque toujours contrariées. Pauvre, j'avais dû me résigner à faire de brillantes études, qu'un heureux hasard m'obligea d'interrompre. Mais notez que je me suis élevé à l'état de propre à rien par mes seuls moyens. Je ne suis pas de ces fils de famille décavés qui roulent de déchéance en déchéance. J'ai choisi. Pourtant, lorsque la faculté, m'ayant rejeté par mesure disciplinaire, je faillis encore m'égarer et je restais 2 années au service d'une administration municipale. C'est le remords de ma vie, voyez-vous. Mais je crois que Dieu m'avait distingué, car je fus renvoyé pour malversation.
Cette pichenette envers la religion a dû se faire retourner dans sa tombe le pauvre Louis de Bonald, homme politique, philosophe, essayiste et contre-révolutionnaire, puisque son credo était « Dans une société bien réglée, les bons doivent servir de modèle et les méchants d'exemple ». Cet académicien était persuadé que l'homme pense sa parole avant de parler sa pensée. Cette théorie justifie l'importance de la langue de bois, très en vogue dans les différentes strates de la société, du petit sous-chef à l'empereur.
Dans son poème intitulé « Savoir », la poétesse belge Esther Granek a su mettre en avant les apparences que se donnent certains au détriment du contenu de leurs paroles.
Savoir parler pour ne rien dire et faire en sorte qu'on vous admire, je vous le dis en aparté, c'est là un gage de succès. Savoir prier, à ne rien croire, savoir satisfaire au regard, je vous l'accorde sans embâge, ça ne ternit point le plumage. Savoir pleurer au cinéma, avoir un cœur sec comme du bois, il n'y a point contradiction entre ces deux situations. Savoir juger sans s'engager, savoir promettre sans aider, voilà judicieuse morale qui ne nous fera aucun mal. Savoir mettre ses intérêts plus haut que quelques libertés, c'est d'une sage politique et qui vous sera bénéfique. Savoir penser, comme il canule, dire « près de vous, on se sent nul », c'est là compliment bien tourné qu'à bon escient il faut placer. Savoir, savoir parler pour ne rien dire.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
laisses l'Arménie, si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandin. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Nous venons d'entendre un digne représentant de la société africaine, c'est Tikenjan Fakoly, dans « Plus rien ne m'étonne ». L'honorable Honoré de Balzac a réglé la question sociale par cette affirmation. Tout change pour que tout reste pareil. Pour lui, tout est question de masse, de poids et de densité. C'est le sens de cet extrait, tiré de son roman « La femme de 30 ans ».
Si, grâce à des conspirations domestiques, beaucoup de niais passent pour des hommes supérieurs, il compense le nombre d'hommes supérieurs qui passent pour des niais, en sorte que l'état social a toujours la même masse de capacités apparentes.
Vivre ensemble est difficile. La société est une entité multiple qui se nourrit de toutes les différences. En suivant l'exemple de Balzac et comme dans la vie, nous avons trouvé dans la même page du dictionnaire entourant le mot « société » aussi bien le sobre que le soifard.
La théorie des idées rejoint donc la pratique des mots. Dans de nombreuses sociétés, y compris animales, l'apparence se double de la force pour imprimer sa suprématie à la société. C'est le cas de la fable de Jean de La Fontaine, intitulée « La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion ».
La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on autant jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt, elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit « Nous sommes quatre à partager la proie. Puis, en autant de parties, le cerf il dépeça. Pris pour lui la première en qualité de sire. « Elle doit être à moi, » dit-il. « Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. » À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord.
La vie en société, c'est quand tout le monde est là et qu'il n'y a personne. La vie en société, c'est quand tous obéissent à ce que personne ne veut.
Ne serait-ce pas une citation de Christian Bobin ?
Parfait, Marc Page. Elle correspond exactement à la situation malheureuse des autres animaux de la fable face à leur roi. Le moraliste Nicolas de Chamfort conforte la pensée en annonçant « Amitié de cour, foi de renard et société de loup. C'est l'effet incontournable et universel de toute cour auprès des puissants. »
La haute société gravite autour des élites. Dans cette époque du XIXe siècle finissant, où Maupassant écrit « Mon Auriol », les apparences de la haute, leur morale fièrement affichée, leur avidité de pouvoir et de richesse s'affichaient lors de fêtes et de représentations fastueuses et luxueuses. Cette ostentation n'était bien souvent que façade et mascarade, pour cacher les faiblesses susceptibles de toucher chacun et chacune. Écoutons l'illustre écrivain moustachu dans cet extrait.
« Paul connaissait trop Gontran pour ne pas le croire capable de fermer les yeux sur une liaison de sa sœur. Mais alors, comment n'avait-il pas laissé comprendre plus tôt qu'il la devinait ou qu'il la savait ? Gontran était en effet de ceux pour qui toute femme du monde doit avoir un amant ou des amants. De ceux pour qui la famille n'est qu'une société de secours mutuel. Pour qui la morale est une attitude indispensable pour voiler les goûts divers que la nature a mis en nous. Et pour qui l'honorabilité mondaine est la façade dont on doit cacher les aimables vices.
Vivant à la même époque, mais dans des contrées plus polaires, l'amoureux torturé qui était Pouchkine voit dans la société humaine une origine diabolique.
Dieu permit à l'homme d'avoir une femme, sachant que le péché des frissons de la chair n'est que passager. Mais il ne lui permit pas, le moins du monde, de forniquer avec une nouvelle femme. Le péché revit et dure, grâce à la diversité de femmes qu'offre la société. L'être humain est l'œuvre de Dieu. La société humaine est l'œuvre du diable.
En poursuivant, dans la série « Société maritale et religieuse », le dramaturge et marionnettiste Guido Cerronetti, créateur du théâtre des sensibles, donnait ainsi sa vision. Les combats de gladiateurs supprimés, les chrétiens instituèrent la vie conjugale.
Il nous reste à survoler les changements dans la société qui ne s'opèrent que dans la violence et la force, jamais dans la douceur et la coopération. Avec cette vision, Romain Gary nous offre la possibilité de changer l'homme sereinement et sans heurts ni contraintes. Le grand vestiaire est le titre de cet extrait.
Elle était d'avis qu'on ne pouvait rien changer dans la société avant d'avoir changé l'homme lui-même, et qu'on avait déjà obtenu, dans la culture de certains légumes, et en particulier des tomates, des résultats encourageants dans ce sens, et que si on pouvait détourner en tomates les tomates de leur chemin, c'est qu'on pouvait le faire aussi avec les hommes. Il y avait donc de l'espoir. On arrive bien à avoir des tomates sans pépins, disait-elle. L'homme sans pépins était apparemment ce qu'elle attendait.
Paul Valéry aimerait suivre l'espérance de Romain Gary, mais son réalisme ne lui laisse que peu d'illusions à la société, dans cette citation.
Si tous les hommes étaient également éclairés, également critiques, et surtout également courageux, toute société serait impossible.
Triste constat. C'est en compagnie de Pierre Dac que nous abordons le dernier volet de la société, qui fait tant parler d'elle ces derniers temps. J'ai nommé la société de consommation.
En effet, dans notre société de consommation et d'épargne, un homme qui a de l'argent est un homme considéré. Un homme qui n'en a pas est également considéré, mais lui comme un pauvre type.
Le groupe Mickey 3D s'est inspiré des bouleversements de la société et nous invite à nous oxygéner dans leur titre « Respire ». Notre micro-société, anonyme, vous a présenté avec plaisir cette nouvelle promenade au Jardin des mots. Au revoir et à bientôt.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.